Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Chantal Doré.
Chantal Doré, donc, au micro des Héros Anonymes pour ce deuxième bloc en lien avec la nutrition que l'on souligne au mois de mars. Donc, on a beaucoup parlé d'accès à la nourriture, mais pour cette émission, on voulait parler de la relation avec la nourriture. Et dans notre première partie avec la maison L'Éclaircie, on a parlé des troubles alimentaires, mais on voyait là, vers la fin de l'entrevue, on arrivait tout doucement vers l'image. Et on a eu envie là, de parler de la relation avec notre image. Donc, si on est capable de travailler à la source, en prévention au niveau de l'image, ben peut-être qu'on réussira à éviter certains troubles alimentaires. C'est ce qu'on voudra découvrir avec notre invitée, Julie Wittig-Chagnon, d'Arimage. Bonjour, Julie.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va très bien, vous.
Quel site Internet ludique vous avez?
Oui, on mise beaucoup. On est une petite équipe de travail, donc on a misé sur mettre toute l'information nécessaire en ligne pour que les gens puissent y accéder facilement.
Je comprends un peu avec le ton que on s'adresse peut-être principalement à des adolescents ou des jeunes adultes.
Mais je vous dirais même pas. Ah, on s'adresse vraiment à monsieur, madame, tout le monde. Ça concerne tout le monde, l'image corporelle. Mm-hmm. Mais nous, ce qu'on voulait, c'est surtout donner un côté bienveillant, lumineux, y aller dans la prévention. Donc, c'est pour ça qu'on y était avec un peu plus l'humour que des fois aller dans le vif du sujet avec la lourdeur de la problématique.
Mm-hmm. Ben, c'est ça, je disais que vous vous adressez finalement à tout propriétaire d'un corps.
Voilà, c'est ce qu'on dit.
Il y a quelque chose que j'ai bien aimé dans le dossier de recherche où vous avez parlé un peu du mouvement de neutralité corporelle. Et c'est la première fois que j'entendais parler de ça parce qu'on parle souvent de l'image reliée à la beauté. Et là, oui. L'aspect fonctionnel, je trouvais ça intéressant comment vous l'amenez. Donc, qu'est-ce que la neutralité corporelle?
Ben c'est comme un nouveau mouvement parce qu'avant c'était beaucoup le body positivisme, donc tout le monde est beau, tout le monde est belle, tout le monde doit s'aimer, tout le monde doit accepter son corps.
Peu importe sa forme, mais bon, oui, c'est ça.
Puis c'est pas évident, c'est pas tout le monde, tu sais, il y a des gens beaucoup qui ben moi je l'aime pas mon corps, OK, mais maintenant on est capable de le respecter malgré tout. Et donc ce mouvement là ce qu'il vise, c'est de miser sur les fonctions du corps plutôt que seulement son apparence. Bon ben mon corps il me permet de marcher, de travailler, de faire des choses que j'aime, de prendre mon enfant dans ses bras. Fait que c'est de miser vraiment sur les fonctions et tout ce qui nous permet de faire au quotidien. Puis nous, on en a fait un peu, on développe des petites campagnes de sensibilisation, des fois pour passer des messages clés, dont il y en a un, c'est « Ton corps est ton outil ». Et c'est l'objectif de la campagne. Okay.
Quel lien on fait à ce moment-là avec un autre terme dont on a beaucoup parlé ces dernières années, la notion de poids santé?
Oui, nous, à l'image, on parle beaucoup de poids naturel plutôt que de poids santé. Donc, de miser sur la différence, c'est que le poids santé, c'est vraiment en fonction d'un IMC, donc c'est quelque chose qui est très médical. Le poids naturel, c'est le poids vers lequel mon corps va tendre. Si je le nourris comme il faut, j'écoute ses envies, je le mets en mouvement selon aussi ses besoins et ses envies. Donc, si je réussis à connecter avec mon corps, ben il va aller vers un poids naturel. Puis c'est pas le poids désiré, hein. Puis c'est pas le poids souhaité nécessairement. Ça se peut qu'il soit plus élevé, ça se peut qu'il soit plus bas. On n'a comme pas le contrôle là-dessus. Souvent l'image qui est donnée là, c'est la bouée. Si je mets une bouée sur l'eau là, puis j'essaie de la faire descendre dans l'eau là, donc je veux perdre du poids. Ben elle va remonter, tu sais, elle va revenir chercher son équilibre sur l'eau. Même chose si je la lance dans les airs puis je prends beaucoup de poids, mais le corps va revenir toujours à ce niveau-là. Donc c'est d'accepter qu'on a un poids pour lequel on est programmé. Et si on a des saines habitudes de vie, et là encore dans saines habitudes de vie, il faut pas rentrer dans les pièges de bouger plus, manger mieux, mais plutôt d'être à l'écoute de son corps et de le mettre en mouvement puis de garder le plaisir là-dedans, ben on va y aller naturellement vers ce poids-là.
Et comment on sait le poids pour lequel on est programmé?
Ben c'est comme je vous dis, c'est le poids qu'on a eu souvent le plus longtemps dans notre vie quand on met pas de mesures de contrôle en place. Donc, si je fais pas des régimes, le problème, c'est que si je suis plusieurs régimes restrictifs ou que je mets mon corps dans des situations où est-ce qu'il est pas bien, ben là, ce poids-là, il peut finir par augmenter ou changer parce que le corps, lui, il tombe en mode survie, là.
dans le contexte de gens, justement, bon, qu'on va dire, là, je vais dire le mot personne grosse parce qu'on va parler oui. de grossophobie oui. versus en bon point obésité. Je disais aussi là, que c'est important de bien nommer les choses.
Oui, c'est pas toujours tout le monde qui est à l'aise avec ça, mais nous, on l'explique, on le revendique, le mot. On parle de personne grosse et non de gros-grosse, donc mm-hmm. on y va avec la personne. Et tu sais, il y a rien, c'est l'interprétation qu'on en fait de ce mot-là, en fait, qui fait que les gens trouvent que c'est un mot péjoratif parce mm-hmm. qu'on veut tous avoir une grosse maison, un gros char. C'est toujours bien vu, c'est l'exemple qu'on donne souvent, mais quand on parle d'une personne grosse, tous les tabous embarquent et on est mal à l'aise face à ça.
C'est vrai, c'est excellent. C'est parce qu'effectivement, c'est le même adjectif, mais c'est qu'on mais oui. y associe quelque chose de négatif, alors qu'effectivement, dans d'autres cas, c'est pas la même situation. Je la retiens, celle-là, je trouve ça intéressant. Donc, à ce moment-là, quand on parle de grossophobie, pourquoi le mot phobie?
C'est vraiment la stigmatisation des personnes grosses. Puis tu sais, on parle, il y a tellement de types de grossophobie. Là, je suis même pas une experte sur le sujet, tellement c'est vaste. Parce que la grossophobie, on intègre des propos grossophobes dès notre enfance, justement, avec les messages des fois de santé, qu'on associe la minceur à la santé et la grosseur à un manque de volonté, plein de caractéristiques qui sont peut-être négatives. Et la grossophobie, ben c'est aussi envers soi-même. C'est le commentaire qu'on fait sur notre propre corps, se trouver grosse, les mots des fois qu'on utilise pour parler de notre corps. Fait que c'est présent partout, tout le temps. C'est juste d'en être conscient puis de peut-être être plus sensibilisé à ça, de se rendre compte des fois, « Oh, j'ai eu un propos grossophobe. » Donc, c'est juste lever des petits red flags quand ça arrive.
Mais quand on dit phobie, on veut dire peur. Si je comprends bien
la peur, oui. oui.
Mais c'est la peur de quoi? La peur de devenir gros? La peur des gros? On parle de quoi au juste?
La peur de devenir gros, entre autres. Mm-hmm. Et c'est tout ce qui est associé à la grosseur. Donc, c'est vraiment comme la perception négative de tout ce qui est associé à la grosseur.
OK. J'ai eu une expérience de diriger un magazine sur le poids santé. Bon, c'est l'expression qu'on utilisait à l'époque. Oui. Ça m'a assez fascinée de voir que j'avais recommandé sur la page couverture d'avoir une belle fille qui est en forme, justement, qui aurait eu son poids naturel. Et on m'a suggéré plutôt un mannequin qui, à mon avis, était en sous-poids. Et ça m'avait un peu... Ça m'avait un peu dérangé de dire pendant 52 pages, on parle de poids santé. Et là, l'image à laquelle on réfère, c'est quelqu'un qui n'a pas un poids santé. Donc, comment ça se fait qu'on peut être parfois aussi incohérent dans nos messages?
Bien, on est conditionné à ça. Comme je vous dis, minceur égale santé. Il faut pas oublier qu'il y a une grosse industrie aussi qui profite du fait que les gens soient insatisfaits de leur corps. Mmh. Tu sais, la culture des régimes, c'est présent partout, tout le temps, depuis qu'on est jeune. Donc, c'est de se défaire de tout ça. C'est quelque chose qui est pas évident. Là, on en voit de plus en plus de diversité corporelle, mais avant, c'était complètement absent. Là, c'était toujours une jeune femme blanche, blonde, dans les stéréotypes corporels. C'était toujours les mêmes corps qui étaient représentés. Donc, maintenant, c'est de présenter des corps différents, mais plutôt de présenter, tu sais, pour parler de santé, c'est de présenter le corps dans des situations d'habitudes de vie qui sont bénéfiques. Tu sais, une personne qui est en famille, en train de manger, une personne qui est en train de pratiquer une activité physique qu'elle apprécie, ben, c'est des façons de démontrer la santé autrement que par un poids ou un corps standard, là.
Mais je vois un petit peu dans les sites de commerce en ligne, entre autres, le recours à des mannequins, justement, qui ont une diversité corporelle. Qu'est-ce qui fait là, que certains détaillants, certains fabricants vont emboîter le pas en ce sens-là, puis d'autres qui restent vraiment fixés à des mannequins d'une taille, je dirais, propice à cette industrie-là?
Ben, je crois que tout le monde gagnerait à présenter plus de diversité parce que c'est seulement 3% de la population qui correspond au modèle de beauté. Donc, ton client type ne correspond pas au modèle que tu vends. Donc, je crois que des fois, c'est peut-être vendre un rêve, mais ceux qui emboîtent le pas justement avec la diversité corporelle, ben souvent c'est souligner ces belles initiatives-là, puis les gens qui ont des poids corporels différents, ben vont être encouragés à aller plus vers ce marchand-là que ceux qui leur proposent des tailles qui correspondent pas à leur réalité.
Ben c'est surtout aussi qu'on a une idée de comment le vêtement tombe. selon notre corps, parce que parfois, on va l'acheter en ligne sur un mannequin qui fait de taille 2, 4, et le vêtement ne tombera pas du tout de la même façon. Donc, au moins, là, on a une idée de comment le vêtement risque de nous faire.
Oui, il y a encore beaucoup d'améliorations, là, je vous dirais, à faire à ce niveau-là. Quand on pense au prix des vêtements aussi,
oui.
les prix des vêtements des personnes taille plus, c'est vraiment pas le même budget qu'ils doivent consacrer. Là, tu sais, quelqu'un qui peut s'habiller dans un magasin standard, ben là, c'est plus facile de courir les soldes, mais sinon, c'est comme des grandeurs limitées, il y a peu de modèles, donc c'est vraiment compliqué. C'est un commentaire qui revient souvent des personnes, des fois des personnes grosses, la difficulté à s'habiller.
Mm-hmm. Je vous propose qu'on fasse une courte pause et je voudrais peut-être investiguer davantage là, sur le guide de rédaction et de visuel que vous avez créé, parce que je sens que vous êtes un organisme là, qui justement peut jouer un beau rôle de sensibilisation auprès des détaillants, auprès des commerçants dans leur représentativité du corps.
Parfait.
on revient. De retour pour notre dernier bloc des héros anonymes. Nous sommes avec Julie Witty-Chagnon d'Arimage. Donc, j'allais dire Arimage Estrie, mais vous êtes basée en Estrie. Mais je comprends qu'il y a eu tellement de services de conférences en ligne que finalement, le Estrie n'est pas toujours nommé.
Bien, on l'a enlevé, en fait,
oui, hein?
Une planification stratégique, parce que justement, la pandémie, elle a quand même apporté ça. On a modifié nos façons de faire maintenant. Nos groupes, nos activités, les visioconférences, il y a tellement de services qui sont offerts en ligne gratuitement ou à moindre coût que quand on gardait Estrie, ben les gens pensaient que c'était réservé seulement à la région alors que tout le monde peut y participer.
Donc, ce que j'entends, parce que souvent, nos héros anonymes nous disent qu'ils ont vraiment eu maille à partir avec la pandémie. Dans votre cas, ça vous a un petit peu donné des ailes pour pouvoir faire de la prévention plus largement.
Oui, ça a changé nos façons de faire, mais ça a amené quand même des belles réussites.
Okay. Je disais tout juste avant la pause que vous avez créé un guide de rédaction et de visuel. Ça a piqué ma curiosité. De quoi on parle?
Oui, ben on a fait ça pour les gens parce que nous, on est une petite équipe de travail, comme je vous disais, mais on engage beaucoup de collaborateurs, collaboratrices, nutritionnistes, kinésiologues, des personnes qui font du visuel pour nous. Et là, c'était de toujours expliquer, bon, on veut pas ci, on veut ça, utilise pas tel mot. Donc, on a fait vraiment un guide où est-ce qu'on parle, entre autres, de la rédaction épicène, les listes de termes courants, c'est quoi utiliser, quoi éviter, comme on parlait, mettons, personnes grosses plutôt qu'obésité, en bon point, surpoids. Bon, on explique tout ça là-dedans. Le poids santé, le poids naturel, et aussi pour le visuel, parce qu'on a tendance, on s'en rend pas compte, mais souvent, c'est toujours les images clichés qui reviennent, troubles alimentaires, on voit quelqu'un d'emprisonné, très mince, jeune fille, donc on perpétue un peu les clichés, tu sais, fait qu'on essaie d'y aller plus avec des symboles ou des images qui vont marquer l'esprit des gens, mais sans représenter nécessairement des corps ou de perpétuer des clichés. C'est pour ça qu'à l'image, ouais. Nous d'ailleurs, notre visuel, là, si vous allez sur notre site web, c'est beaucoup notre campagne, c'est notre slogan, c'est cultive ta différence. C'est des carottes aussi qui sont toutes diversifiées, différentes couleurs, différentes formes, parce qu'on n'arrivera jamais à représenter tous les corps. Donc, en parlant de diversité corporelle, on y va souvent avec des symboliques.
Oui, puis vous avez nommé le mot épicène dans la rédaction inclusive. Est-ce que, en principe, quand on parle d'écriture épicène, c'est vraiment en termes de masculin, féminin surtout, ou c'est plus large que ça?
Ben nous, on essaye d'y aller avec des termes neutres. C'est pas facile, hein? C'est changer notre vocabulaire. Donc, les spécialistes plutôt que la ou la professionnelle. Donc, on y va avec des termes plus larges.
Justement, tant qu'à être dans le côté épicène, de quelle manière les notions d'image peuvent être différentes pour les personnes non-binaires ou transgenres? De quelle manière ça peut les impacter?
Ben souvent, justement, il va y avoir un changement au niveau de l'image corporelle. Donc, c'est des gens qui vont peut-être rencontrer. Mais tu sais, ça l'impacte autant que dans toutes les autres catégories de la population. C'est des enjeux qui sont différents, mais c'est certain que de pas se reconnaître dans un certain corps ou de devoir être confronté à des stéréotypes sexuels, ça peut faire naître des enjeux. Donc, c'est toutes des problématiques ou des enjeux qu'on va traiter à travers nos activités.
Et habituellement, les gens qui participent à vos activités, bon, on dit tout propriétaire d'un corps, mais en général, est-ce que vous sentez qu'il y a une certaine tendance vers un groupe d'âge particulier?
Pas nécessairement. Je vous dirais, ça dépend vraiment des activités parce que quand on fait une visioconférence en ligne, je donne un exemple, on va en avoir une avec Marie-Michèle Ricard sur l'image corporelle des enfants. Bon, ben là, il va y avoir des professionnels, beaucoup, des gens qui vont travailler avec les jeunes, qui vont venir chercher de l'information, poser leurs questions. Pour ce qui est de nos groupes, on a toutes sortes de groupes. Bon, ben ça va être varié dépendant des thématiques, dépendant des moments que c'est offert dans la journée. Quand on va dans les écoles faire des kiosques de sensibilisation, ben là, ça va être les jeunes. Donc, les services s'adressent à tout le monde, mais c'est certain qu'on retrouve certaines catégories d'âge plus dans certains services que d'autres. C'est certain aussi qu'on a une grande majorité de personnes qui participent à nos activités sont des femmes parce que c'est peut-être moins tabou d'aborder l'image corporelle pour les femmes que pour les hommes. Donc, c'est quand même un petit défi, des fois, d'aller chercher les hommes à travers nos activités.
Pourtant, on sent quand même là, qu'il y a une ouverture de plus en plus, et malheureusement, de l'anxiété qui n'était pas nécessairement là chez les hommes ou peut-être qui ne s'exprimait pas. Par exemple, un homme qui va commencer à perdre ses cheveux ou qui prend du poids peut avoir des enjeux par rapport à son image corporelle.
Clairement, on a fait une série de capsules de vidéos justement sur l'image corporelle des hommes. Il y a un documentaire très intéressant qui vient de sortir sur la culture du sport, mm-hmm. de l'entraînement excessif à Adonis qui vient de sortir, qui est gratuit sur Télé-Québec. Donc oui, les hommes vivent autant d'enjeux que les femmes, c'est juste que c'est peut-être un sujet qui est un petit peu plus tabou en raison, entre autres, des stéréotypes qui peuvent être associés. C'est plus valorisé ou c'est plus accepté par la société qu'une femme aille chercher du soutien en lien avec un problème d'image corporelle. Donc, des fois, c'est plus difficile pour un homme d'aller consulter pour cette raison-là. Mais de plus en plus, puis on en voit de plus en plus dans nos services, puis on est vraiment content de ça. Oui.
J'ai longtemps animé une émission qui s'appelle « Au fil du temps ». Alors, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'on touche également au niveau de l'image corporelle ou au vieillissement?
On touche à tout, mais c'est pour ça qu'à l'image, on a décidé de rester très central dans notre mission. Donc, c'est promotion de la diversité corporelle et on n'offre aucun service spécifique à des problématiques parce que c'est tellement vaste. T'sais, on pense à le corps de la femme pendant qu'elle vit une grossesse, oui. avant, pendant, après, le vieillissement. Il y a tellement de catégories, justement, comme vous parliez, les personnes non-binaires, les personnes trans, c'est tellement vaste. Qu'on a fait vraiment, bon, ben nous, on va se concentrer sur le message central, le message clé, et ensuite, on va diriger les gens vers des ressources plus spécialisées.
Par exemple, si je prends, mettons, le cas du vieillissement, j'ai eu une conversation la semaine dernière avec quelqu'un qui disait, bon, cette femme-là ne se teint pas les cheveux, c'est dommage, ça la vieillit tellement. Et là, j'étais un petit peu en réaction et je me disais, ah, on est encore dans ce combat-là où pour un homme, c'est de la sagesse, c'est sexy, les tempes grises. Et tout à coup, pour une femme, c'est comme un aveu de « oui, je vieillis, je vous le montre ».
Oui, ça fait partie des standards, l'éternelle jeunesse, c'est pas évident. Puis un autre point important au cœur de notre mission, je vous dirais, qui regroupe tout ça aussi. Nous, on essaie de prôner d'éviter tous les commentaires concernant l'apparence physique, la sienne et celle des autres. Donc, ça règle beaucoup de problèmes.
Mais c'est pas un peu difficile parfois quand on va référer à quelqu'un, les gens vont avoir tendance à décrire la personne physiquement pour qu'on la reconnaisse?
Quand c'est décrit, que c'est une description avec des faits, c'est une chose, mais ce qu'on veut dire par les commentaires, mm-hmm. c'est « Ah, oh, mon Dieu, t'es belle, t'as perdu du poids
oui. »
ou « Ah, t'as perdu du poids, t'es-tu malade? » Tu sais, de faire des commentaires sur l'apparence ou même envers soi-même. Là, j'ai pris tant de livres pendant le temps des fêtes, je suis pas bien. Puis au-delà du poids, là, au-delà de avec son apparence aussi, parce qu'on n'a pas idée des impacts que ça peut créer dans notre entourage.
Mm-hmm. Je vais aller plus spécifiquement justement sur vos services. Donc, on parle de conférences en ligne, mais aussi de l'approche du fonctionnement par groupe.
Oui.
C'est important pour vous là, que ça se fasse en groupe?
Oui, on fait aucun service de rencontre individuelle, mm-hmm. c'est seulement des groupes. Donc, c'est des approches qui sont différentes. Tout le monde peut y trouver son compte. On a des groupes qui sont en ligne, on a des groupes qui sont en présentiel. Je peux vous nommer quelques groupes. On a un groupe d'alimentation intuitive qui, lui, a lieu en ligne. Donc, c'est des rencontres avec une nutritionniste. C'est des petits groupes de 8 personnes. Ça permet d'avoir un espace sécuritaire, de favoriser les partages. Et là, les gens vont explorer les 10 principes de l'approche anti-régime pendant ces rencontres-là. Ensuite, on a des groupes d'art-thérapie. Mm-hmm. Eux sont offerts soit en présentiel ou en ligne. Aussi, on en a développé un nouveau en ligne. Et là, il y a des thématiques différentes. Donc, l'acceptation de soi, l'acceptation du corps, les émotions et l'alimentation. Encore une fois, des petits groupes de 8 personnes avec une art-thérapeute. Fait que ça peut être un service. L'art-thérapie, je vous dirais, là, c'est comme un de nos gros services.
Ah oui.
Surtout qu'en tant qu'organisme communautaire, on offre nos services à moindre coût. Donc, 12 rencontres de 3 heures avec l'art-thérapeute en présentiel pour 50 $. Il y a beaucoup de personnes qui veulent en bénéficier. Donc, nos groupes oui. sont habituellement assez complets.
Et c'est le fait de parler de nos émotions en utilisant l'art pour pouvoir s'exprimer sur la notion d'image corporelle?
Oui, à chaque rencontre, il y a une thématique différente mm-hmm. qui est abordée en lien avec le thème du groupe. Les gens vont faire une création, ensuite vont partager leur création et les autres vont pouvoir commenter ce que la création fait vivre. En fait, c'est comme un groupe de soutien avec le médium de l'art. Et ce que ça permet, c'est beaucoup dans les gens qui sont beaucoup dans leur tête ou dans le contrôle. Mm. Des fois, ils ont d'arriver puis de mettre ça sur papier. Oups, même eux, ils ont des révélations de choses qu'ils n'avaient pas pensé qui pouvaient être un enjeu dans leur
OK, donc ça vient servir un petit peu de débloquant quand les pensées peuvent être envahissantes.
Voilà, ça peut dénouer beaucoup de choses. C'est assez puissant comme démarche. Puis le fait que ce soit un groupe en continu, ben ça permet d'aller plus loin. Okay.
Vous avez parlé d'alimentation intuitive. Je trouve ça intéressant parce que nous, on a un groupe de discussion familial sur Messenger et mon père parle souvent de ça dernièrement. Sa femme est très, très férue de nutrition saine. Et donc, on parle de quoi quand on parle d'alimentation intuitive?
Il y a 10 principes. Je ne suis pas l'experte. Nous avons une nutritionniste pour ça. Mm-hmm. Mais en gros, c'est vraiment la bienveillance envers soi, envers son corps, envers son alimentation. Et c'est de reconnecter un peu, comme je vous expliquais tantôt, l'écoute des signaux de faim et de satiété, l'écoute de ses envies, puis de rétablir une relation saine avec la nourriture. Fait que c'est ça l'objectif. C'est comment qu'on y arrive? Ben, on prend conscience de plein de choses comme les impacts des cultures, des diètes. Mm-hmm. Toutes ces choses-là sont vues à travers le groupe pour permettre aux personnes d'avoir une meilleure relation avec la nourriture.
Pensez-vous qu'on comprend de plus en plus? Parce qu'en même temps, avant, on parlait de diète, de régime, mais là, on dirait que ce sont des programmes nutritionnels qui deviennent compliqués, cétogènes. Et c'est rendu maintenant, on n'appelle pas ça nécessairement des programmes d'amaigrissement, mais ça devient quasiment des dictats des religions sur des programmes de saine nutrition. J'ai comme l'impression que ça peut créer encore là une certaine forme d'anxiété.
Clairement, là, c'est sûr que c'est toujours des nouveaux régimes, ou appelons-le comme qu'on veut, le mode de vie. Mais le but reste un peu toujours le même derrière tout ça. Donc, c'est des règles alimentaires qui sont imposées dans le but X ou Y. Donc, ça reste un petit peu la même chose. Ça change, ça suit les modes. Fait que c'est de vraiment retrouver qu'est-ce que moi, mon corps, il veut. Puis nous, c'est sûr que c'est pas quelque chose qu'on encourage, la culture des diètes. Donc, voilà pourquoi qu'on propose l'alimentation intuitive.
Bravo. Je vois un autre atelier qui est intéressant, la photo exploratoire.
Oui, on essaie de développer plein d'approches mm-hmm. parce que c'est pas tout le monde qui vont répondre de la même façon aux mêmes approches. Donc, photographie exploratoire, c'est un petit groupe de 8 personnes où est-ce qu'on apprend à reconnecter avec son image. Des fois, c'est pas évident. Reconnecter avec son image et apprendre à se connaître à travers le médium de la photo. Donc, c'est des polaroids, il y a des exercices comme, bon, ben on va dehors, on va prendre une photo de quelque chose qui nous représente. Ensuite, on présente ça au groupe. C'est vraiment un contact à soi, un moment qu'on s'accorde pour reconnecter avec son image corporelle. C'est un groupe qui est très apprécié aussi. C'est un service qu'on essaie de faire découvrir de plus en mm-hmm. plus, là, mais c'est un groupe qui est assez populaire.
Oui, j'imagine. Je trouve que c'est une belle façon d'aborder ces sujets-là. Est-ce que vous discutez du danger des filtres sur les réseaux sociaux dans cet atelier-là?
À travers cet atelier-là, c'est plus comme la connaissance de soi et quelque chose de plus dans la bienveillance. Mm-hmm. Mais les impacts des réseaux sociaux, ça fait partie des conférences qu'on est en train de développer. En ce moment, on a des ateliers qu'on transforme en conférences. Et c'est clair que l'impact des réseaux sociaux est présent là-dedans. Et c'est aussi un sujet qu'on veut développer du nouveau contenu vidéo, des outils pour soutenir les intervenants, les parents sur comment encadrer ça, puis comment arriver à diminuer les impacts. Je dis les parents, les intervenants, mais c'est soi-même également parce qu'on est tous sur les réseaux sociaux et on en subit tous les conséquences, parfois positives, parfois négatives.
Bien, c'est de propager une image qui n'est pas réelle. Quand je vois sur Instagram autant de jeunes filles qui utilisent des filtres pour se transformer, mais j'ai comme l'impression qu'ils contribuent un peu à empirer le syndrome parce qu'on se projette dans quelque chose qui est complètement irréel. Au niveau technologique, c'est quelque chose qui n'est pas réel. C'est pas seulement quelques modèles qui portent du 2 ou du 4 ans. Non. C'est vraiment les filtres changent vraiment les traits.
C'est ça la différence avec avant. On dénonçait un peu plus le modèle de beauté unique, mais maintenant, on est tous des modèles pour quelqu'un d'autre. Donc, on s'expose énormément sur les réseaux sociaux. Il y a une étude d'ailleurs qui disait qu'on prend en moyenne, c'est 14 selfies avant d'en publier un. Imaginez si on fait tous. Notre image est déjà filtrée avant de mettre un filtre. Donc, c'est sûr que ça a une influence sur les gens qui vont consommer du contenu sur les réseaux sociaux et vont toujours voir la meilleure version des personnes qui suivent, là.
Alors qu'on est habitué avant aux films qu'on développait, puis bon, c'était pas toujours heureux ce qui restait, mais c'était la vraie vie.
Voilà.
Julie, quel est le nom du site Internet pour avoir accès à tous ces contenus inspirants?
arimageesprit.com. On est aussi sur Facebook, on est sur Instagram, on est sur YouTube, plein de contenus à suivre, donc je vous invite à nous rejoindre.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Julie Wippy-Chagnon d'Arimage. Nous avons également reçu... Excusez-moi, merci, à très bientôt.
Merci, bonjour.
Nous avons également reçu en première partie Marie-Lie Doré de la maison L'Éclaircie. Merci à notre dynamique équipe Catherine Bourderon à la recherche, Pearson en régie, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique, et au micro Chantal Doré. J'espère que vous avez apprécié cet épisode des Héros anonymes. Vous savez que nous sommes sur les réseaux sociaux également. Nous sommes sur les plateformes de balado-diffusion, également à CKVL. Donc, ce sera un plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Et tiens, en ce mois de la nutrition, je vous propose de goûter à quelque chose de bon. Et je ne parle pas de la nourriture ici, quelque chose de bon, une belle expérience avec vous et vos proches. À la semaine prochaine!